ярче солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте разбиться необычайно долго.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Footballski Podcast, le quatrième et dernier de cette mini-série de présentation de nos pays pour cette Coupe du Monde. Après la Russie, la Croatie et la Serbie, il est temps de présenter la Pologne. Et pour en discuter, je suis avec le grand spécialiste du football polonais sur le site, Mathieu Pechnar. Salut Mathieu.
Dzień dobry.
Mathieu, j'imagine que comme tous les fans polonais, tu es chaud comme la braise avant cette Coupe du Monde.
Bah, c'est vrai que ça fait quand même 12 ans qu'on n'a pas vécu de Coupe du Monde. Hein. La dernière fois, c'était en Allemagne, ça s'était pas très très bien passé. Hein. On n'avait pas passé la phase de groupe, donc c'est vrai qu'il y a quand même une envie avec une très belle génération qu'on n'a pas vue depuis quelques années, même depuis les années 70-80. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la sélection polonaise. Bon, on va en discuter ensemble, mais ça se voit déjà lors du rassemblement, etc., les supporters. Mais c'est vrai qu'on est chaud comme la braise, effectivement.
En plus, il y a la proximité géographique qui fait qu'on verra peut-être beaucoup de Polonais en Russie.
Oui, oui, ça aurait été un petit peu mieux si l'équipe avait joué à Kaliningrad, parce que Kaliningrad, c'est une enclave russe entre la Pologne et la Lituanie. Mais c'est vrai que ça fait moins loin. Il y a juste à passer la Biélorussie et après, on arrive en Russie. Il devrait y avoir pas mal de Polonais. Le public polonais, généralement, c'est quand même en plus des gens qui ont un peu plus, on va dire, d'argent que ce qu'on peut voir en extra-classa, par exemple, et c'est plutôt des familles, donc c'est des gens qui vont se déplacer sans faire trop de heures et trop de problèmes. Et oui, il devrait y avoir du monde en Russie, il devrait y avoir du drapeau blanc et rouge en Russie.
Et on le sait, on aime tous passer en Biélorussie, hein, puisque c'est un magnifique pays.
Ouais, magnifique dictature.
Alors on va commencer directement avec les 23. Je crois pas trop de surprises. La seule petite surprise qui n'en est peut-être pas une, c'est Slavomir Peschko.
Oui.
Qui est là malgré ses performances, mais qui fait un peu office de Lukas Podolski, DJ Maison, le gars qui est là pour le groupe.
Ouais, exactement. Je veux dire, dans les 23 qui ont été sélectionnés, c'est vrai, on n'a pas eu de grosses surprises. Peschko, c'est pas vraiment une surprise. On sait qu'il est là, voilà, comme tu le disais, hein, que c'est un peu le Podolski du groupe. Il est pote avec tout le monde, surtout avec Robert Lewandowski, ce qui aide pour être sélectionné en équipe de Pologne, faut le dire. Voilà. Navauka est aussi comme ça. C'est un peu, je pense qu'on peut faire le parallèle avec Didier Deschamps là-dessus. C'est-à-dire qu'il va choisir plutôt sur des postes qui sont pas forcément des titulaires indiscutables ou des titulaires tout court. Il va choisir plutôt le groupe au profit de la performance individuelle, ce qu'il a fait exactement avec Peschko, qui a toujours été là depuis 10 ans en équipe de Pologne et qui connaît tout le monde, etc., et qui rentrera certainement peut-être pour la Coupe du Monde pour jouer 2-3 minutes de temps en temps, mais voilà, pas plus. Donc c'est pas forcément une surprise. Ça fait beaucoup débat en Pologne, c'est vrai, parce que bon, il a fait quand même une saison qui était vraiment pas terrible avec le Lechia Gdańsk, comme tout le Lechia Gdańsk. Donc voilà, il y a des grosses discussions, une hate ou pas, etc., par rapport plutôt sur des points de vue personnels par rapport à Peschko, qui aime bien la fête et qui aime bien boire aussi. Donc ça, c'est d'autres problèmes. Mais voilà, à vrai dire, dans les 23, on peut dire ceux qui sont partis, hein, si tu veux, du groupe qui n'ont pas été retenus par Navauka. Il y a Skorupski, le gardien de l'AS Roma, gardien remplaçant de l'AS Roma. Lui était blessé, donc il a laissé sa place à Białkowski, le gardien de Ipswich dans le groupe. Żurkowski, du Górnik Zabrze, qui est jeune encore, donc c'est assez logique, on va dire, qu'il n'ait pas eu sa place dans le groupe, même s'il
était... C'est la révélation du championnat en extra-classe.
Oui, c'est la révélation du championnat, un milieu box-to-box très très intéressant, qui va certainement partir dans un plus grand club cet été. Il aurait pu prendre la place de Guralski, mais Guralski, pour Navauka, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus défensif, qui joue actuellement à Razgrad. Et je pense qu'il voulait avoir ce profil plus défensif dans son groupe, alors que Żurkowski est plus proche d'un profil d'un bon Krychowiak que de Guralski. Szymanski n'a pas été pris, qui a été la grosse révélation aussi cette année. Szymanski, 19 ans, Sébastien Szymanski, l'ailier du Legia Warszawa. Plutôt logique, il était venu dans le groupe pour l'expérience. Il aurait pu prendre la place de Peschko, mais voilà, comme on l'a dit avant, Peschko a été pris pour une question de groupe. Voilà, de toute façon, il serait pas rentré il serait pas rentré pour plus de 10 minutes, mais ça aurait été peut-être intéressant de le voir comme on l'a pu le voir avec Bartosz Kapustka, lui qui a disparu des radars d'ailleurs, comme on l'avait vu.
On lui souhaite une meilleure carrière
oui,
dans les années à venir.
Oui, espérons qu'il parte pas tout de suite pour l'Angleterre. Voilà, qui avait un peu crevé l'écran à l'Euro 2016. Bon, il sera pas là. C'était une bonne expérience pour lui d'être dans le groupe. Il sera certainement là dans le futur, parce qu'il est l'un des plus gros talents de ces dernières années en Pologne, hein. Simonski. Małczyński, par contre, ça peut être une petite surprise, parce que lui aussi pouvait prétendre une place à la place de Góralski, mais il a été, il s'est un peu blessé, et donc finalement il a été choisi pour retourner à la maison par Navauka, malgré le fait qu'il soit toujours souvent dans le groupe. Wilczek, l'attaquant de Brøndby, logique, était préféré, Navauka a préféré garder Tautorczyk, qui a un profil un petit peu différent, on va dire, plutôt tour de contrôle, un profil qu'on n'avait pas, alors que Wilczek a plutôt un profil d'attaquant de boîte. Frankowski, logique, pareil, à droite. Kendziora, qui est parti aussi, logique, il y a Piszczek et Bereszyński à sa place, donc logique qu'il s'en aille. Et Davidovic, qui était là, par plaisir, certainement. Je sais bien qu'il ait déjà été là pour lui, hein, parce qu'il avait fait des matchs assez désastreux avec l'équipe Espoir pendant l'Euro. Voilà, globalement, on va dire, c'est vrai que c'est une liste qui me paraît homogène et juste. Si on exclut un peu le Capeshko qui va faire monter tout, qui fait monter tout le monde en Pologne, mais pour le reste, on est dans de la logique.
Mmh. Et trois gagnants, j'ai noté trois gagnants qui ont bénéficié de leur super saison en club actuellement, un défenseur, un milieu, un attaquant, David Komnacki.
Mmh.
Grosse saison à la Samp.
On va dire bonne. C'est vrai, il a fait une bonne première. Je dirais même qu'il a fait une très bonne première partie de saison en tant que joker à la Samp, parce qu'il était derrière Zapata et Quagliarella, il me semble, de mémoire. Et c'est vrai que c'est compliqué à 21 ans d'arriver dans un nouveau championnat comme la Serie A et d'essayer de prendre la place de ces deux joueurs. Et il a plutôt été incisif lors de ses rentrées. On le verra certainement beaucoup plus titulaire l'année prochaine avec la Sampdoria, et c'est vrai qu'il fait aussi il est là aussi parce que Robert Lewandowski croit beaucoup en lui et l'aide beaucoup justement pendant les rassemblements, et c'est un joueur qui a du talent et qui peut jouer aussi sur l'aile, donc ce qui peut être très utile pour la
polyvalence. Exactement. C'est un groupe de 23, c'est intéressant.
Exactement.
Pas très polyvalent lui par contre, c'est Rafał Kurzawa.
Oui, c'est
qui jouait en D2 l'année dernière.
Exactement, avec le Górnik, qui joue en D2. Le Górnik est monté, on finit quatrième cette année. C'est vrai que c'était une belle révélation aussi, Kurzawa, qui a plus de 20 assists, 21 pour être exact, cette année en extraclasse. C'est un joueur qui est très très intéressant sur les coups de pied arrêtés, que ce soit corner, coup franc. Peut-être moins dans le jeu, même s'il a même un jeu de passe qui est plutôt honnête. Il n'a pas une pointe de vitesse pour être un ailier gauche de qualité internationale, ça faut être honnête. Mais si on pouvait faire comme au foot américain et en fait juste faire entrer la Fox Java pour tirer les coups francs et les corners, ça serait bien. Malheureusement, on peut pas. Donc je pense qu'il n'aura pas énormément de temps de jeu pendant la Coupe du Monde non plus. Mais voilà, il sera là en tant que backup sur le côté de Kloszczycki, voire de Rius si on monte Rius d'un cran.
Et le Bartosz Brzeziński,
oui,
qui pareil a fait une belle saison à la Samp et qui mérite sa place dans les...
Oui, exactement. Lui, par contre, si Kovnacki est plus rentré en tant que joker de luxe, lui, Bereszyński a fait les matchs, a fait tous ses matchs pratiquement titulaires avec la Samp au poste d'arrière droit, ce qui lui a valu d'être suivi d'un peu plus près par le Napoli, par exemple. Il s'est vraiment bien révélé après être parti du Lech Poznań. Et il a fait une très 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 belle saison. Les critiques étaient plutôt amélioratives en Italie, donc c'est vrai qu'il a eu sa place par rapport à Kendziora. Voilà, il était au début de l'année, on va dire, en concurrence avec Kendziora, qui est parti à Kiev, et finalement sa saison en Serie A lui a permis d'avoir cette place.
Parfait. Alors en Pologne, il y a une petite interrogation concernant le système tactique qu'utilisera Adam Nawalka à la Coupe du Monde. Il y a pas mal de, je crois que j'ai lu qu'il y avait pas mal d'oppositions où les deux équipes jouaient à trois derrière. Ouais. Est-ce que c'est une option crédible pour une équipe qui a quand même quelques certitudes déjà dans un système cohérent qu'elle utilise depuis 5-6 ans?
Alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus en Pologne. C'est vrai que globalement, avec ce qu'il arrive comme joueur et le réservoir qu'on va avoir et qu'on a actuellement de jeunes joueurs, etc., le 3-4-3 ou 3-5-2 comme on veut l'appeler, plutôt 3-4-3 avec la Pologne, serait un dispositif d'avenir. Maintenant, Navauka a décidé de le tester, c'était pour les matchs amicaux de cet hiver, face à l'Uruguay, et je me rappelle plus du deuxième.
Mexique.
Oui, exact. Mexique. Il a essayé de le tester avec une partie titulaire, une partie remplaçant, beaucoup plus de remplaçants que de titulaires. Il avait trouvé ça intéressant. Globalement, les observateurs n'avaient pas trouvé ça forcément très très intéressant, mais lui, oui. Donc, il a décidé d'avoir cette possibilité d'avoir un 3-4-3 qui serait possiblement fluide pour passer vers un 4-4-2 si besoin, selon les besoins dans le match, en fait. Donc, globalement, je veux dire, on s'avance plus vers un 3-4-3 en démarrage et un 4-4-2 si besoin lors d'un match particulier ou lors d'une phase d'un match si on est mené ou si on mène au score, par exemple, ou quoi que ce soit.
Mmh. C'est possible que le sélectionneur ait vu qu'il y a des moments, par exemple à l'Euro, où le 4-4-2 marchait pas très très bien et il a senti que la Pologne avait besoin de quelque chose de nouveau.
Je pense que pour lui en fait le gros souci qu'on a c'est qu'on n'a pas d'arrière gauche de grosse qualité. Même si Rebus a fait une bonne saison avec une très bonne saison avec le Lokomotiv cette année, il a été champion d'ailleurs. Par exemple à l'Euro on a été obligé de mettre Jan Jeszczyk sur le côté gauche qui est pas son poste à la base, c'est un défenseur droit. Donc pour lui dans son esprit, c'est-à-dire de passer en 3-4-3, ça permet d'avoir des gens à chaque poste qui sont vraiment spécialistes de leur poste. C'est-à-dire que vu qu'on remonte Rebus au milieu où il est plus à l'aise, faut dire la vérité, c'est pas Rebus, c'est plus quelqu'un qui va courir sur son côté gauche que quelqu'un qui va venir pour défendre. Pour lui, il pense que le 3-4-3 est vraiment beaucoup plus adapté aux joueurs qu'on a maintenant, parce qu'il a vu ses lacunes sur ce côté gauche par exemple dans le 4-4-2. Et ce qui aussi donne pour lui le 3-4-3 plus d'aisance pour Zielinski au milieu de pouvoir orienter le jeu. Donc si on parle sur le 3-4-3 avec ce qu'on sait actuellement de l'effectif, etc., on aurait une défense à 3 qui serait Čonek, Pazdan, Piszczek. Donc Piszczek reviendrait en défense centrale et plus sur le côté droit. Un milieu de gauche à droite qui ferait Rybos, Krychowiak, Zielinski et Błaszczykowski à droite, et après devant une attaque avec Lewandowski donc en 9, Grosicki peut-être à droite mais avec Milik à gauche, mais peut-être un Milik un peu plus libre, tu vois, c'est-à-dire un Milik plus en 9,5 derrière Robert Lewandowski, mm-hmm. etc. Ou avec la possibilité de changer pour faire un pied, pour être avec pied opposé par exemple avec Grosicki, l'avoir un de temps en temps à droite, l'autre à gauche, etc. C'est un peu le schéma sur lequel on va. On en saura plus sur ce schéma, je veux dire vendredi avec le match contre le Chili. Ce qui sera le premier match, parce que la Pologne a fait ses matchs très très en retard pour les matchs amicaux. Toutes les sélections ont déjà fait au moins un match amical, la Pologne ne l'a pas encore fait. Ça sera donc ce vendredi 8 face au Chili, et puis après contre la Lituanie le 12. Voilà, pour l'instant on s'amène vers le 3-4-3 comme on l'a dit, avec toujours cette interrogation sur le central entre Čonek ou hypothétiquement Glick si un miracle se produit, on ne sait pas, mais voilà, globalement si Glick est forfait pour la Coupe du Monde, et ce qui semble l'être pour l'instant, on va dire à 98%, il y a 2%, le reste c'est dans les mains de Dieu, on s'amène vers ce dispositif en 3-4-3.
Mmh. On enregistre ce podcast le 6 juin. Quand vous l'écouterez, vous aurez la réponse concernant Kamil Glik. Nous, on ne l'a pas actuellement, donc on ne peut pas, on ne fait que supputer. C'est quand même un gros coup dur, cette absence probable, possible de Glik quand même, dans une défense qui était très bien rodée et qui avait de l'expérience avec Pajdan, avec Glik.
Ouais, et surtout que je pense que globalement, Glik bonifiait Pajdan en équipe nationale. Par son expérience, par son côté battant que Pazdan a aussi, mais qui était vraiment bonifié par celui de Glik. Et Glik fait quand même partie de cette colonne vertébrale de Navauka, c'est-à-dire qu'on avait, on va dire, là, on va commencer par regarder avec Chesney, Glik, Krychowiak, Lewandowski. Ça c'est la colonne vertébrale donc de l'équipe. On enlève Glik. C'est gênant d'un point de vue expérience et d'un point de vue repère, et derrière on enlève Glik pas pour mettre un défenseur qui sera globalement à son niveau. Il faut être honnête, si on met Čonek qui a fait bonne demi-saison avec l'Aspal, mais qui en équipe nationale a été toujours un petit peu, on va dire, pas très bon, disons les mots. Ou si on remplace par Kaminski, qui à Stuttgart n'a pas non plus beaucoup joué. Si, il a un peu joué, mais non plus pas énormément, et c'est pas non plus de la qualité de Glick. Ou peut-être, d'un point de vue personnel, je préférais, mais je pense que Navauka a plus d'expérience avec Čonek, mais d'un point de vue personnel, je préférais essayer Ben Narek, qui lui a fait une très bonne fin de saison avec Southampton et qui est devenu titulaire suite à la blessure d'un décès là-bas et qui a été élu joueur du mois de mai à Southampton et qui leur a permis aussi de se sauver en première ligue. Voilà, je veux dire, derrière Glick, comme on peut le voir, on n'a pas non plus un réservoir énorme. C'est un gros coup dur, ça a fait mal en Pologne pendant 2-3 jours. Maintenant, on va falloir essayer d'aller de l'avant. Et s'il est pas là, il est pas là. Et faudra bien jouer sans lui et essayer de passer la phase de groupe sans lui. Ce qui pour moi est jouable, de passer la phase de groupe même sans lui.
Et justement, ça fait partie des points faibles de cette équipe de Pologne, c'est la profondeur de banc. On sent qu'il y a 13-14 joueurs de très très bons joueurs, je dirais, de classe internationale. Et puis après, il y a quand même une baisse de niveau assez significative.
Oui, c'est vrai qu'on a un banc qui est assez assez mité. Bon, d'un point de vue déjà le défenseur, au milieu, voilà, je veux dire, si on fait même Krychowiak de cette saison qui est pas celui de l'Euro 2016, faut être honnête, mais qui en compétition internationale avec la POC peut se revigorer un peu. Après derrière, qui on fait rentrer? Guralski. Voilà. Bon, c'est pas pareil si Groszicki, qui en équipe de Pologne est absolument incroyable, parce qu'il n'est pas en club, hein, c'est vraiment un joueur de sélection, Groszicki, comme ça peut l'être avec certains Sud-Américains. À la place, qui ont fait rentrer Peschko, par exemple. Voilà, c'est vrai que la profondeur de banc est pas extraordinaire. Il faudra qu'on soit solide, il faut que ce 11 soit solide, mais on a quand même des joueurs, on va dire globalement de très bon niveau, et des joueurs qu'on n'a jamais vus, par exemple depuis longtemps en équipe de Pologne, comme Angelinski qui est vraiment un meneur de jeu qu'on n'a jamais vu avec cette qualité technique depuis des années, on va pas dire depuis Dana, mais peut-être. Donc c'est vrai, mais une Coupe du Monde, est-ce que ça se gagne à 23? Oui, certainement avec le groupe. Sur le terrain, est-ce que ça se gagne pas plutôt à 15-16? Donc l'un dans l'autre, globalement, tu joues toujours avec les mêmes joueurs sur les gros matchs. Après le troisième match, si on a déjà gagné les deux premiers, bien sûr, on pourra mettre les coiffeurs et ça sera bien pour faire reposer tout le monde. Mais une vraie Coupe du Monde, ça se gagne sur un groupe qui est quand même solide et pas un groupe de 20 joueurs sur le terrain.
Est-ce que tu mettrais le changement tactique comme point faible aussi, parce qu'il est pas très accompli, pas très perfectionné?
Comme point faible, je sais pas, parce que j'ai pas encore vu les matchs. On n'a pas vu de match encore de vrais matchs avec l'équipe titulaire, avec cette formation. On n'en a pas vu. Parce que l'Uruguay et le Mexique, c'était des équipes mixtes où certains étaient partis en vacances après le match de l'Uruguay pour aller se régénérer en Pologne, comme Lewandowski, Kolosinski, etc. Donc, franchement, on n'a pas vu cette formation en live sur le terrain, ce que ça donne. Parce que je sais pas si ça serait forcément un point faible si elle est vraiment très bien travaillée depuis 2 semaines. Peut-être, hein. C'est vrai qu'on a plus de certitude sur le 4-4-2 et ce qui est logique. C'est compliqué, tu vois, de te dire maintenant et de le dire aux gens maintenant, parce qu'on n'a pas, on n'a pas eu les matchs, donc on peut pas avoir ça. On va voir que ce 3-4-3 est fantastique en amical et que finalement ça marche bien, les repères sont là, etc. Et que ça marche bien. Mais c'est vrai que sur le papier, on peut se dire, oui, c'est peut-être un point faible, mais un point faible était dans le 4-4-2, le côté gauche, avec Rebus qui montait beaucoup et donc en fait on avait des problèmes sur ce point-là défensif. Là, ça peut régler le problème avec un Rebus qui est déjà plus haut, avec un Krychowiak qui devra un peu faire le backup derrière, et avec un Čonek, Pazdan, Piszczek qui vont être là à 3 derrière, ce qui donne une assise globalement sur le papier plus importante au niveau défensif. Donc voilà, il faudra avoir les matchs amicaux.
C'est ça, c'est quand même, sans être un point faible, ça reste un point d'interrogation tout de même. Pour une équipe qui, dans les points forts, avait des certitudes assez solides, après des belles performances à l'Euro 2016 par exemple, et une phase de qualification, même s'ils ont un peu tremblé sur la fin, c'était quand même relativement souverain.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une phase, on a fait un plutôt bon Euro 2016, éliminé au tir au but par le Portugal en quart de finale, qui est vainqueur de la compétition, donc c'était plutôt réussi. Mais si on regarde bien l'Euro 2016, la force de la Pologne, c'était sa défense. C'était pas forcément son attaque. Je veux dire, on a beaucoup vendangé devant. Lewandowski a pas fait un grand euro, faut être honnête. Il a fait un mauvais euro parce qu'il a dû beaucoup travailler d'un point de vue défensif, ce que lui demandait Navauka. Milik était meilleur pendant l'euro, par exemple, que Lewandowski d'un point de vue offensif, mais Milik a beaucoup vendangé. On a eu des buteurs qui étaient plus comme Błaszczykowski, par exemple. Donc globalement, c'est vrai qu'on avait cette assise défensive du 4-4-2 qu'on connaissait exactement. Là, est-ce que le 3-4-3, c'est pas un peu plus offensif finalement pour donner un peu plus de panache aussi à l'équipe devant et plus de cartouches avec un trio Milik, Krosicki, Lewandowski et Zielinski derrière en 10 qui est meneur de jeu. Le schéma tactique a été aussi changé pour Zielinski, qui était pas là, qui avait pas pris le pouvoir et maintenant qui a pris totalement le pouvoir dans cette équipe en tant que meneur de jeu. Donc voilà, c'est un schéma qui est plus offensif, qui est moins typé, on va dire, que ce qu'on avait pu voir à l'Euro 2016 dans les éliminatoires d'avant ou même dans les éliminatoires. Et ça a un peu changé vers la fin de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde d'ailleurs. On était beaucoup moins typé globalement. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de questions sur comment on va pouvoir jouer, comment ça va marcher, comment on va faire sans Glick s'il n'est pas là. Est-ce que Robert Lewandowski, parce que ça aussi c'est une vérité et qui est parfois un peu dur à voir justement qu'on voit, mais qui est un peu dur à mettre des mots dessus, c'est-à-dire que Robert Lewandowski est très bon, mais on a besoin maintenant de lui pendant une grande compétition. Et ça c'est aussi important parce que ok, Robert Lewandowski est peut-être l'un des meilleurs neuf au monde actuellement, mais il a quand même globalement en grande compétition des problèmes de régularité parfois. Ça c'est une vérité. Enfin, je pense que même par exemple quand tu vois les déclarations des mecs de ENS ou quoi que ce soit, ou Rummenigge au Bayern München, voilà, quand ils font référence aux problèmes dans les grosses compétitions, ils targetent aussi Lewandowski là-dessus. Donc c'est à lui aussi de montrer maintenant que c'est sa Coupe du Monde. Et que c'est la Coupe du Monde de la Pologne parce qu'on a une grosse génération et là il y en a pas mal qui vont partir à la retraite après, donc par exemple des mecs comme Błaszczykowski, Glik on verra, mais Lewandowski non, Krychowiak il est pas vers la fin, mais voilà, on a des trentenaires qui sont là et cette Coupe du Monde c'est aussi leur Coupe du Monde et la Coupe du Monde entre ces trentenaires et ces nouveaux joueurs qui arrivent comme Kovnatski, comme Berezinski, Linette aussi par exemple, et c'est important de faire de cette Coupe du Monde une Coupe du Monde réussie, en espérant, pour être honnête, l'objectif serait d'arriver jusqu'au quart de finale. Mais il faudrait passer par un huitième, déjà sortir du groupe, qui est un groupe très compliqué, hein, avec le Sénégal, la Colombie et le Japon, avec des styles de jeu très différents et qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Et de sortir de ce groupe, après un huitième qui pourrait être contre la Belgique, par exemple, ce qui pourrait être assez complexe, et essayer d'arriver en quart de finale. Mais si on n'arrive pas en quart de finale maintenant, avec cette équipe, avec ou sans Glick, encore une fois, ça va être compliqué. De se dire qu'on peut atteindre un quart de finale dans le futur, parce que même si on a une belle génération qui arrive, on sait que les Polonais généralement ont du mal au niveau aussi, même si ça va un peu mieux maintenant, mais ont du mal à exploser parce qu'on a de très bons jeunes joueurs dans les académies, etc., mais qui ont du mal, comme on le voit avec Kapuska par exemple, qui ont du mal après à voler de leurs propres ailes. Donc c'est vraiment la Coupe du Monde où la Pologne doit se révéler. Puis quand même, c'est quand même l'une des plus belles générations depuis les années 70 et 80. On rappelle en 82, la Pologne avait fait troisième en battant la France pour la troisième place. Donc voilà, c'est vraiment une compétition qui nous tient à cœur et qui doit être réussie pour ça.
Et justement, pour réussir, il y a des joueurs de classe. Je dirais 3 ou 4 joueurs de classe internationale. Je parle de Lewandowski évidemment, mais Zielinski, Szczęsny. Et peut-être Linetti qui commence à s'affirmer au plus haut niveau, qui est peut-être un des meilleurs joueurs de Serie A cette saison. Donc il y a le talent pour voilà, pour changer les matchs, quoi, sur un coup de pied arrêté, sur une frappe de loin, sur n'importe quoi, sur un enchaînement, sur une passe exceptionnelle de Zielinski. Ouais. Il y a ce qu'il faut, quoi.
Mais je pense que le plus important, en fait, c'est aussi que cette équipe se connaît. Je veux dire, c'est des joueurs, la plupart, si tu prends les cadres et si on prend le 11 titulaire, parce que Lennet, et c'est un très bon joueur, mais il sera certainement pas titulaire, à moins que vraiment Krychowiak soit vraiment dans un assez déplorable pour qu'on le remplace. Mais tu as un groupe de joueurs, Chesney, Kroshiski, même Pazdan, Błaszczykowski, Lewandowski, Krychowiak, qui se connaissent, ils jouent en équipe nationale ensemble depuis énormément de temps. Ils se connaissent très bien, ils ont déjà des automatismes, etc. Et ça, je pense que c'est très important dans une Coupe du Monde. Parce qu'avoir un gros réservoir de jeunes, c'est très bien, mais au bout d'un moment, si tu as des joueurs qui ne se connaissent pas, il faut apprendre tous les automatismes, etc. C'est pour ça que la blessure de Glick peut être un problème, parce que là, on perd quelqu'un qui était très important dans la défense et qui avait des automatismes et qui connaissait tous ces gens-là. Et enfin tous ces joueurs-là. Donc c'est vrai qu'on peut nous envier certains joueurs, ça je suis d'accord. Et on peut aussi nous envier cette expérience qui pour moi est importante si on la balance aussi avec les talents qui arrivent. Mais par exemple un mec comme un gardien comme Chesney, c'est un gardien qui a été longtemps sous-coté, qui va devenir numéro un maintenant à la Juventus, et qui fait le taf et qui fait très bien le taf. Mais on attend que ces joueurs soient leaders. Par exemple Błaszczykowski, on l'a vu à l'Euro être leader. Moi je personnellement j'attends vraiment Lewandowski. On voit énormément, il est leader dans les éliminatoires, etc. Mais c'est vraiment pour moi le moment maintenant où il doit montrer dans cette grande compétition et dans une Coupe du Monde que c'est à lui de mener la Pologne vers ce titre. Parce que ce titre, ou pas, hein. Mais un joueur comme Zielinski, par exemple, il est encore jeune. C'est-à-dire qu'il a énormément de talent, énormément, énormément. Mais il est encore un peu trop, psychologiquement pour moi, un peu trop jeune et un peu trop frêle psychologiquement pour être meneur de cette équipe. C'est à Robert de tirer tout le monde vers le haut. Et voilà. Et si on a besoin de jouer avec les Coronets, faut qu'on joue aussi avec les Coronets, même si on a du talent. Mais faut pas oublier d'où on vient et ce qu'était le jeu de la Pologne aussi avant. On jouait beaucoup moins bien avant, certainement, mais on était avec le cœur, avec l'envie et avec cette rigueur qu'on avait et cette connaissance entre joueurs qu'on avait. Et il faut qu'on continue là-dessus. Avec le 3-4-3, c'est vrai que ça va poser certaines questions. On aura les réponses ou pas avec les amicaux. J'ai tendance à croire un peu Navauka. Navauka, c'est pas un énorme tacticien, c'est vrai. C'est plutôt une école des champs. Hein. C'est-à-dire que moi, pour lui, c'est on a un groupe, il faut qu'on fasse le maximum possible avec ce groupe et que tout se passe bien avec le groupe. Et à partir du moment où le groupe vit bien et que tout vit bien, on peut aller loin. C'est un peu la politique de Navauka. Et je pense que pour cette Coupe du Monde, ça, on peut le faire. Et encore une fois, avec ou sans Glick.
Et cette Coupe du Monde, elle représente un peu une sorte de cerise sur le gâteau pour une sélection qui progresse depuis son euro un peu catastrophique à domicile. On sent une progression assez linéaire, et cette Coupe du Monde, ça peut être le, comme je disais, la cerise sur le gâteau, quoi. C'est une sélection qui intègre les jeunes joueurs de plus en plus, je dirais, et qui peut, enfin, sur cette Coupe du Monde, qui peut peut-être pas créer une surprise, parce que je dirais pas que la Pologne, ce sera une surprise de les voir en demi, par exemple. Mais ça peut être le fruit d'un travail mené depuis 5-6 ans, depuis l'arrivée de Navarro.
Oui, c'est vrai. L'euro en Pologne, c'était une catastrophe nationale. C'était terrible. Et on voit que depuis, on a reconstruit petit à petit, etc. Il y a des choses, par exemple, que j'aime pas trop chez Boniek, qui est le nouveau président, enfin qui est le président de la fédération, ou chez Navauka, mais il faut dire ce qui est, c'est-à-dire qu'on, grâce aux améliorations qui ont été faites, et pas forcément en extra classa, mais on voit qu'on a des académies qui produisent de bons joueurs, on voit que beaucoup de nos joueurs s'exportent dans des grands championnats, etc. C'est vrai que petit à petit, on voit que cette équipe est en progression constante. Est-ce que là, on n'a pas atteint? Et comme tu le dis, ça pourrait être la cerise sur le gâteau, la Coupe du Monde en Russie. Est-ce qu'on n'a pas atteint un pic, peut-être? Je sais pas. Est-ce qu'on aura, on retrouvera un autre joueur comme, un autre neuf comme Robert Lewandowski dans le futur? Peut-être pas. Même si on a des joueurs talentueux, hein, comme Kovnatski, etc. Mais qui seront peut-être pas au niveau, on peut pas le dire actuellement, mais qui seront peut-être pas au niveau d'un Lewandowski. Donc c'est vrai que ça viendrait couronner ce travail qui a été fait par tout le monde, par les joueurs, par le staff, par la fédération, globalement sur l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale, pendant toutes ces années, a souvent été l'arbre qui cachait la forêt du football polonais national, qui était pas forcément, et on l'a vu en extraclassa, par exemple, ou même cette année avec aucun club polonais en Coupe d'Europe, ce qui est pas terrible, hein. a souvent été cet arbre qui cachait la forêt, cet arbre qui continue à monter, monter, monter. En plus, faire une belle prestation en Russie, en plus en Russie, pour la Pologne, ce serait vraiment beau d'un point de vue historique aussi.
Parfait, on va finir par un petit pronostic quand même. Objectif, le plus objectif possible. Enfin, on peut pas dire objectif, mais le plus objectif.
Bon, le plus objectif possible, je pense qu'on a un groupe, comme j'ai dit, compliqué. Homogène, effectivement. Il va falloir tout de suite rentrer dans le bain face au Sénégal. Je pense que si on gagne face au Sénégal le premier match, on peut, avec honnêteté, finir premier du groupe avec la dynamique en essayant de faire un match nul ou une victoire face à la Colombie, qui me paraît être le plus gros adversaire du groupe. Je mettrai le Sénégal un tout petit peu en dessous, le Japon encore en dessous. Je pense qu'on devrait sortir premier du groupe ou deuxième. Dans tous les cas, je pense qu'on a toutes, je veux dire 80%, allez, 70% de chances de sortir de ce groupe si on joue comme on sait le faire. Après les huitièmes, un huitième c'est toujours compliqué. Match à élimination directe contre la Belgique par exemple ou contre l'Angleterre, c'est ça? Belgique ou Angleterre? Tout peut se passer. Les Anglais, je pense que les Anglais aient une sélection sur le papier, même globalement, qui soit extrêmement supérieure aux nôtres. Les Belges ont des beaux noms aussi, par contre, sur le papier. Est-ce qu'ils vont réussir à jouer en équipe, etc. Et dans une compétition comme celle-ci, je sais pas. Après, si on arrive à passer les huitièmes, le reste, pour moi, pour être honnête, c'est vraiment du bonus. Si on arrive à arriver au quart, après, on verra ce qui se passe et Dieu sait ce qui se passera, mais l'écart serait très très bien. Le sortir en huitième, ça serait une petite déception. Je pense que l'objectif de la fédération, c'est d'arriver jusqu'au quart. Et moi, personnellement, je pense qu'on peut arriver jusqu'au quart de finale. Après, je pense que c'est une Coupe du Monde, c'est compliqué après pour les pronostics hein, là-dessus. Mais quart de finale, ça serait fantastique.
Oui, parce qu'on le sait, on le répète tout le temps, dans le football, tout est possible.
Exactement.
Et c'est la maxime sur laquelle on terminera ce podcast. Merci Mathieu d'avoir été avec moi. Et moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine.
Dobroyu Polska.
Salut Mathieu.
Dobroyu Polska.